Sophie Mallet.
Bonjour, aujourd'hui la danse des mots va s'intéresser à Leclésio. Leclésio, c'est un grand écrivain français qu'on nomme bien souvent par son nom de famille parce qu'avec son prénom, on hésite. La plupart du temps, il y a des initiales, JMG. Si on les décline, on sait que ça veut dire Jean-Marie Gustave. Mais c'est bien long, Jean-Marie Gustave. Alors parfois, on dit Jean-Marie Leclésio, de temps en temps, on dit JMG Leclésio, et ça reste un peu mystérieux. Oh, Leclésio tout seul, ça suffit bien, parce que c'est un grand romancier, ça fait très longtemps qu'il est connu en France, il est prolifique, il a fait paraître de nombreux essais et romans. Il est bien français, hein, et en même temps, il est pourtant passionné par le voyage et par l'écriture des voyages, l'écriture des pays étrangers. Alors il m'intéresse à plus d'un titre, d'abord parce que depuis longtemps il utilise la langue française pour dire le monde, pour chanter le monde, pour le rendre visible. Et ensuite, parce que c'est un écrivain du visuel qui s'est intéressé à l'image, et même qui s'est intéressé à d'autres écritures que l'écriture des mots, notamment au cinéma ou à la photo. Et c'est là-dessus que je l'ai interrogé quand j'ai eu la chance de le rencontrer, alors qu'il était membre du jury du prix des 5 continents et que ce prix était décerné pour la dernière fois à la fin de l'année 2007 à Bruxelles. Jean-Marie Leclésio, l'une des choses qui m'intéresse dans vos écritures, c'est quelque chose que vous avez abordé dans le dernier ouvrage que vous avez fait paraître et qui parle du cinéma, puisque vous évoquez l'écriture par image et l'écriture avec le stylo. Je ne sais même pas d'ailleurs si vous utilisez ce mot d'écriture, mais vous dites que ce n'est pas pareil, qu'il y a des gens qui ont été tentés par les deux, et vous citez Malraux, vous citez Colette, Lee Chang-dong, le coréen qui est cinéaste, mais qui lui a été tenté par l'écriture. Est-ce qu'à votre avis, il s'agit de deux écritures avec deux médias différents ?
Oui, oui, je pense que c'est très différent de construire une histoire ou d'exprimer des idées ou des obsessions par le moyen des images. Je crois qu'il y a quelque chose de beaucoup plus immédiat, plus direct. Et je comprends en effet la réponse que m'avait donnée Lee Chang-dong quand je lui ai posé la question « Pourquoi choisissez-vous de faire des films plutôt que d'écrire des romans ?» Il m'a dit « Parce que les films, c'est beaucoup plus efficace. » Et je lui ai dit « Mais la durée ?» Parce que pour moi, c'est ça la question. Et il a reconnu que la durée du langage écrit est beaucoup plus sûre, beaucoup plus grande. Donc, on pourrait dire que ce sont deux moyens, l'un qui s'exprime par la facilité, par l'immédiateté, et l'autre par la durée.
Mais pour les deux, vous pourriez parler d'écriture, dans la façon dont justement on agence les matériaux. Est-ce que le rapport, disons, au hasard elle-même est un petit peu différent? Si on est derrière une caméra, on peut avoir une intention, mais on est quand même beaucoup plus soumis aux images qui se présentent et qu'on va capter ou pas. Quand on a un stylo ou une machine à écrire ou un ordinateur, bon, c'est différent. Le rapport aux matériaux qu'on va utiliser n'est pas du tout le même.
Oui, certainement, l'écriture est le moyen le plus libre. C'est évident que quand vous êtes devant votre feuille de papier avec un crayon Bic, vous êtes beaucoup plus libre que le réalisateur qui doit organiser, rechercher, qui est soumis aux impératifs de la lumière, de l'éclairage, de la bonne volonté des acteurs. Mais la réalité, c'est que les deux expressions répondent aux mêmes besoins. C'est-à-dire que on a besoin de créer en dehors de soi-même, de mettre en évidence quelque chose qui est intérieur et qui devient extérieur une fois que c'est exprimé, que c'est écrit ou que c'est montré sous la forme d'image. Oui, ça c'est vrai qu'il y a cette différence. Et je ressens dans le travail des réalisateurs le même impératif que dans celui des écrivains. C'est absolument urgent et on doit dire quelque chose et ce quelque chose a besoin de prendre une certaine forme, d'être exprimé selon un rythme, selon une familiarité, selon une expérience personnelle. Et là, dans ce sens, les deux créations sont très proches. Le cinéma est un art total, c'est un art qui implique la réalité dans sa totalité. L'écriture, c'est plutôt comme une sorte de miroir que l'on présente Et c'est au lecteur de déchiffrer les images qu'il aperçoit dans le miroir. Parfois le miroir est brisé, comme chez Joyce par exemple. Il nous présente un miroir brisé. Ou parfois le miroir est presque infini, comme dans le cas de Proust. On a un effet d'abîme, un effet de reflet dans le reflet. Et le réalisateur, lui, travaille sur une patte qui est vraiment très réelle. Et sa seule liberté, c'est la prise d'angle. C'est-à-dire, il place la caméra en haut, en bas, ou comme Ozu au ras du sol, parce qu'il a délibérément choisi cette familiarité avec la Terre. Ou le plan américain, qui est le plan qui correspond à l'imparfait, l'indicatif dans la langue française.
Je vous arrête là. Pourquoi dites-vous que le plan américain, qui est donc le plan en gros pris à mi-cuisse, c'est ça?
Oui,
c'est ça. Pourquoi ça correspond à l'imparfait de la langue française?
Oui, elle disait. On n'a pas la proximité du présent, on n'a pas l'éloignement du subjonctif, on est dans une sorte d'indétermination, d'imperfection. Je pense à la langue russe, mais je pense que dans beaucoup d'autres langues, en coréen, en japonais, et probablement dans les langues africaines, on fait moins la distinction entre le présent, le futur et le passé qu'entre ce qui dure et ce qui est terminé. Donc l'imperfectif, le perfectif. L'imparfait, c'est le plan américain, parce que c'est un côté non terminé. On n'a pas déterminé le moment où ça se passe.
C'est quelque chose qui vous suit quand vous écrivez, ce genre de pensée. Par exemple, le fait d'imaginer, ce sont à la fois des termes grammaticaux, des catégories grammaticales qu'on a rajoutées après coup sur la langue. Mais ça rend compte quand même un petit peu de la langue, même si ça n'est pas la langue, la grammaire. Mais vous êtes sensible, par exemple, à ce côté perfectif-imperfectif.
Vous parliez tout à l'heure de hasard, et moi, il m'apparaissait la seule fois que j'ai réalisé un film, c'était un film de 2 minutes et demie sur une musique d'Eric Satie, une commande de la télévision. Et j'ai été saisi par l'impression que j'avais continuellement au moment où je tournais le film, du hasard. J'étais dans le hasard le plus total, alors que lorsque j'écrivais, j'avais l'impression justement de manier des lois, des règlements, ou d'essayer d'éviter ces lois et ces règlements. C'est que le langage me donnait l'impression d'être beaucoup moins l'objet du hasard, beaucoup moins le résultat du hasard. Que lorsqu'on utilise telle forme verbale, lorsqu'on utilise telle expression, telle locution, on est très près d'une nécessité lexicale. On ne peut pas se permettre une autre manière de s'exprimer. Et la littérature me paraît très près de la musique, alors que le cinéma me semble assez éloigné de la musique. Il me semble qu'écrire un roman, c'est composer une pièce musicale. Avec un peu comme dans le boléro, la montée des instruments, ou bien comme dans certains morceaux de jazz où les solos se font les uns après les autres. Et le cinéma, lui, me semble agir davantage avec ce que je vous appelais le hasard. C'est précisément parce que on a voulu tourner par un temps de neige et il fait du soleil, donc ça c'est le hasard, il va falloir changer quelque chose. Et donc c'est vrai, le hasard est le maître et le dieu du cinéma, indubitablement.
Jean-Marie Le Clézio, tout à l'heure vous parliez de cette facilité apparente et concrète à écrire en disant il faut un bic et un bout de papier. Déjà c'est une facilité de l'homme du 20e siècle ou du 21e. C'était pas beaucoup plus difficile avant, mais un peu. D'abord il n'y avait pas de point de bic, ensuite il y avait probablement un cérémonial de l'écriture qui rendait, on griffonnait moins sur un bout de papier. Est-ce que vous avez l'impression que de temps en temps il y a une liberté plus grande pour l'écrivain dans, par exemple, la génération qui est la vôtre ou le siècle qui est le vôtre, Est-ce que ça donne plus de liberté? Est-ce que ça empêche quelque chose? Parce que parfois, justement, la contrainte et la difficulté laissent plus de place à une préméditation de ce qu'on veut faire.
Oui, quand il s'agit d'une véritable création, une création préméditée. Mais la littérature est faite aussi de lettres. Elle est fondée sur l'art épistolaire. Donc là aussi, on prenait des bouts de papier, on écrivait, et de tous ces bouts de papier, de toutes ces écritures, parfois ressortait, je ne sais pas, la recherche du temps perdu ou les Rougon-Macquart. C'était travailler sur un patchwork dont la base était des lettres. Je crois que écrire un roman ou écrire une lettre, ce n'est pas fondamentalement différent. C'est le résultat qui est différent parce que. Et je parle de ça parce que j'ai découvert il y a très peu de temps, dans une malle qui se trouvait chez ma mère, des papiers qui remontent à 1789. Et c'était le témoignage de mon ancêtre au moment de la Révolution. Et il écrivait à sa sœur qui était restée en Bretagne, il lui racontait ce qui se passait dans Paris. Et il le faisait avec des bouts de papier. Bon, c'est du beau papier parce qu'il ne s'est pas beaucoup abîmé. Et avec une plume d'oie, on sent que ça accroche par moments. Il rapportait ce qu'il entendait dans la rue. Les rumeurs, par exemple, il était là, place de la Concorde. Mais ce n'était pas la place de la Concorde encore à ce moment-là.
C'était encore la place Louis XV, peut-être pour quelques années.
Place Louis XV, au moment où le roi est ramené de Varennes. Et il parle du silence de la foule. Lorsque le cortège passe, traverse cette place, et il raconte ça avec des mots qui font que aujourd'hui je lis ça et je peux entendre ce silence. J'ai l'impression d'être là. Et c'est vrai qu'il y a une légère différence. C'est vrai que l'intention n'était pas la même et que ce monsieur n'était pas un écrivain, c'était un chirurgien, mais qui maniait la plume, qui avait, en fin de compte, était-il si différent de, je ne sais pas, d'Aragon, était-il si différent de moi-même? Je ne suis pas très sûr. C'est la destination qui est différente. Et on a le sentiment qu'il s'adresse à sa sœur, mais qu'en fait, à travers les âges, il s'adresse à nous pour dire « Cette révolution dont j'ai été témoin, elle était inévitable et elle devait se terminer comme elle s'est terminée. » Et on peut modifier dans sa pensée l'histoire, mais on ne peut pas revenir sur ce sentiment qu'il énonce. Et dans ce sens, je crois que ce n'est pas de la littérature, c'est de la paralittérature, ou ce que Queneau appelait une autre littérature.
Jean-Marie Le Clézio, dans votre dernier ouvrage qui est consacré au cinéma, vous dites que justement le cinéma est la forme par excellence qui peut donner une image de l'histoire. Et là, vous venez de nous livrer quand même une anecdote qui prouve que, de façon peut-être plus oblique, plus incidente, la plume aussi peut donner à lire l'histoire.
Oui, je pense qu'une des raisons de l'art, que cette excroissance humaine, c'est le témoignage. Je pense que ça, c'est une des principales raisons. Parce que de siècle en siècle, d'époque en époque, de génération en génération, même dans le cours d'une même vie, on assiste à des procès. Là, c'était le procès de Louis XVI. Mais on assiste à des procès. Si on y réfléchit, vous comme moi, nous avons traversé plusieurs grands procès de l'humanité. Et il y a un cinéaste que j'aime beaucoup qui est Bresson, qui lui a bien démontré que le cinéma aussi était un témoignage dans un procès. Presque tous les films de Bresson mettent en scène un procès, un jugement. Le seul moyen de vivre en harmonie et d'être un humain, tout un homme, rien qu'un homme, comme disait Sartre, c'est d'être témoin. Nous sommes des témoins, vous et moi.
Est-ce que la conscience de ça a changé un petit peu votre façon d'écrire ? Il y a pas mal de livres que vous avez fait paraître ces dernières années qui sont justement entre la fiction et le témoignage.
Oui, parce que ma vie a évolué. J'ai commencé à écrire sous l'impact de la guerre d'Algérie. Le procès-verbal, c'est...
C'est 63, le procès-verbal, sa parution?
Oui, je l'ai écrit dans l'année 61, donc c'était en pleine
guerre. Juste avant les accords d'Évian, quoi.
Juste avant les accords d'Évian, pendant qu'ils étaient en train d'être sous-pesés et que le général de Gaulle se demandait s'il allait, oui ou non, abandonner le Sahara aux Algériens. Et pendant ce temps-là, nous vivions, pendant que lui se penchait sur cette grave question, nous vivions dans l'incertitude de savoir si nous allions être mobilisés pour aller tirer à coups de fusil.
Parce qu'en 61, vous avez donc quoi, 20 ans, 21 ans?
Oui, 20 ans. Et donc, au fur et à mesure qu'on s'éloigne de cet éclatement qui est celui de la fin de l'adolescence, ce n'est pas qu'on prend de la distance, mais c'est qu'on ne peut plus exprimer les choses de la même manière. Donc là, on est davantage à l'écoute de la rumeur du monde. Et tout ça, on en prend conscience peu à peu et ça imprègne ce qu'on écrit. Qu'on soit un écrivain réaliste, qu'on soit un idéaliste ou qu'on soit un intimiste, comme c'est le cas aujourd'hui dans la littérature française.
À écrire sur l'histoire ou l'histoire immédiate et la géographie aussi, puisque le livre précédent là que vous avez fait paraître, non pas le dernier mais je crois que c'est l'avant-dernier, Raga, parle de l'Océanie, enfin d'un certain nombre d'îles océaniennes dont vous parlez de façon extrêmement sensible. À un moment vous dites maintenant que tous les arpents de la Terre ont été analysés par l'œil froid du satellite. Est-ce que vous justement vous ingéniez à être un œil moins froid que celui du satellite?
Il y a certainement l'obsession pour moi du regard de la caméra qui surveille. En fait, quand j'ai écrit Raga, je pensais au voyage de cet ancêtre dont je vous ai parlé, qui a quitté la Bretagne au moment de la terreur, la révolution, c'est-à-dire en gros au moment de la misère économique en France, à la recherche d'un endroit où il pourrait survivre, lui, avec sa femme et son bébé une fille âgée de 6 mois. Et j'ai transposé ça, dans mon esprit c'est transposé, et ça devenait le voyage des Polynésiens et des Kanaks qui allaient conquérir peu à peu toutes les îles du Pacifique et qui voyageaient à peu près dans les mêmes circonstances, sur un esquif, sur une barque très légère. Justement, ce monsieur dont je parle a tenu le journal de ce voyage et il raconte qu'une lame passe sur le pont du bateau et emporte sa petite fille âgée de 6 mois. Et à ce moment-là, un marin, probablement marocain, l'attrape par les cheveux et la sauve de la noyade. Et j'ai transposé ça et j'ai...
Donc cette anecdote qu'il y a dans Raga est une transposition d'un souvenir de l'histoire familiale.
Oui, comme d'ailleurs dans tout ce que j'écris, il y a une référence à cette histoire ancienne. Et c'est pour moi une manière de rebondir, ça m'amuse. J'aime bien que la littérature soit un langage codé, que ce ne soit pas un langage direct. Parce que je crois que, contrairement en effet aux images, ou bien de manière différente aux images qu'on reçoit au cinéma, les mots sont à valise, les mots ne sont pas ce qu'ils semblent être. Ils s'ouvrent et dedans il y a d'autres choses. Et l'assemblage des mots n'est pas l'effet donc du pur hasard, du fait qu'il a fait beau ce jour-là ou qu'il a neigé.
Merci encore Jean-Marie Leclésio pour cet entretien. Merci également à l'Organisation internationale de la francophonie qui l'avait rendu possible, puisque je rappelle que Jean-Marie Leclésio est membre du jury du Prix des 5 continents qui est organisé par cette organisation, par l'OIF. C'était La Danse des mots, une émission proposée par RFI et le Centre national de documentation pédagogique, Sophie Mallet, Yvan Amard.